Chapitre 25. Washington, D.C., dimanche 28 décembre 1980. Le shérif Bobby Joe Gentry était en colère. Sa Ford Pinto de location avait une boîte semi-automatique, mais Gentry passa en troisième avec autant de brutalité que s'il avait conduit une voiture de sport. Dès qu'il fut sorti de la rocade pour s'engager sur l'I-95, il adopta une vitesse de 100 km/h en dépit des protestations de son véhicule, mettant la Chrysler qu'il avait pris en filature au défi de suivre son allure et la police de l'autoroute au défi de l'intercepter. Gentry attrapa sa valise d'une main, la posa sur le siège avant droit, la fouilla pendant une minute, en sortit le rugeur chargé pour le placer dans la boîte à gants et jeta sa valise sur la banquette arrière. Il était furieux. Les Israéliens l'avaient gardé prisonnier jusqu'à l'aube, poursuivant son interrogatoire dans leur foutue limousine, puis dans une planque quelque part près de Rockville, puis de nouveau dans leur foutue bagnole. Il n'avait pas dévié d'un pouce dans son récit. Saul Lasky voulait régler de vieux comptes avec un criminel de guerre nazi. Gentry voulait savoir si tout ça avait un lien avec les meurtres de Charleston. Les Israéliens n'avaient recouru ni à la violence, ni, excepté les premières remarques de Cohen, aux menaces, mais s'étaient relayés, répétant les mêmes questions ad nauseam, afin de le faire craquer. Si c'était des Israéliens. Gentry le pensait, croyait que Jack Cohen était exactement qui il prétendait être, acceptait le fait qu'Aaron Eshkol et toute sa famille avaient été assassinés. Mais il n'était plus sûr de rien. Il savait seulement que se déroulait un jeu dangereux dont les participants le considéraient au mieux comme une nuisance mineure. Il fit grimper la Pinto à 110 km/h, jeta un coup d'œil au rugeur et redescendit à 90. La Chrysler verte resta deux voitures derrière lui. Après cette longue nuit, Gentry ne souhaitait qu'une chose, s'écrouler sur son lit et dormir jusqu'au nouvel an. Au lieu de cela, il avait appelé Charleston depuis la cabine publique de son hôtel. Rien sur son répondeur. Il avait appelé son bureau. Lester lui répondit qu'il n'y avait aucun message pour lui et lui demanda comment se passaient ses vacances. « Formidable !» lui dit Gentry. « J'ai vu tous les monuments !» Il appela le numéro de Nathalie à Saint-Louis. Ce fut un homme qui décrocha. Gentry demanda à parler à Nathalie. « Qui êtes-vous ? » grinça une voix peu amène. Le shérif Gentry, qui est à l'appareil. « Nom de Dieu ! Nat m'a parlé de vous la semaine dernière. Vous me faites l'effet d'un connard de flic du Sud. Qu'est-ce que vous voulez à Nathalie, bordel ?»«
Je veux lui parler. Elle est là ?»«
Non, bon Dieu, elle n'est pas là. Et j'ai pas de temps à perdre avec vous, flic de mes deux. »
« Frédéric Noble, » dit Gentry.
« Hein ? Vous êtes Frédéric Noble. Nathalie m'a parlé de vous. » « Arrêtez vos conneries. Vous n'avez pas porté de cravate pendant 2 ans après votre retour du Vietnam. Vous pensez que les mathématiques sont ce qu'il y a de plus proche de la vérité absolue. Vous travaillez au centre informatique de 8 heures du soir à 3 heures du matin, sauf le samedi soir. »
Silence à l'autre bout du fil.
« Où est Nathalie ? » insista Gentry. « Je suis sur une enquête. Cela concerne le meurtre de son père. Sa propre sécurité est peut-être menacée. » « Qu'est-ce que vous voulez dire par « Où est-elle ?» aboya Gentry. « À Germantown !» répondit la voix furieuse. « En Pennsylvanie !»
« Est-ce qu'elle vous a appelé depuis qu'elle est arrivée là-bas ?»«
Ouais, vendredi soir. J'étais pas là, mais Stan a pris son message. » Elle a dit qu'elle était descendue dans un hôtel qui s'appelle le Chelten Arms. Je l'ai appelée 6 fois, mais elle n'est jamais là. Et elle ne m'a pas encore rappelé.
Donnez-moi le numéro de cet hôtel.
Gentry l'inscrivit dans le carnet de notes qui ne le quittait jamais. Dans quel ennui Nat s'est-elle fourrée?
Écoutez, monsieur Noble. Miss Preston est partie à la recherche de la personne ou des personnes qui ont assassiné son père. Je ne veux pas qu'elle retrouve ces personnes, ni que ces personnes la retrouvent. Quand elle reviendra à Saint-Louis, vous devrez vous assurer, petit A, qu'elle ne reparte pas, et petit B, qu'elle ne reste jamais seule pendant les 15 prochains jours. C'est clair ?
Ouais.
Gentry percevait assez de colère dans cette voix pour souhaiter ne jamais en devenir directement la cible. Il avait eu alors envie de se coucher, afin d'être en forme pour la soirée. Mais il avait appelé le Chelten Arms, laissé un message à l'intention de Miss Preston, toujours absente, avait loué une voiture, pas facile un dimanche matin de bonne heure, réglé sa note, fait ses valises et pris la direction du nord. La Chrysler verte resta deux voitures derrière lui pendant une soixantaine de kilomètres. Passé Baltimore, il sortit de l'autoroute pour prendre la Snowden River Parkway, rejoignit la Highway 1 et s'arrêta à la première gargote qu'il rencontra. La Chrysler se gara à l'extrémité de l'immense parking. Gentry commanda un café et un beignet, et là un jeune garçon qui portait dans ses bras une pile d'assiettes sales.
« Hé, fiston, ça te dirait de gagner $20 ?»
Le garçon le regarda d'un air soupçonneux.
« Dans le parking, il y a une voiture sur laquelle j'aimerais en savoir plus, » dit Gentry en désignant la Chrysler. « Si tu as l'occasion de faire un tour par là-bas, j'aimerais savoir quel est le numéro de sa plaque. » Et tout ce que tu pourras me dire sur ses occupants sera le bienvenu. »
Le garçon revint avant que Gentry ait fini son café. Il fit son rapport d'une voix essoufflée, puis conclut.
« Ils ne m'ont même pas remarqué. J'ai tout simplement jeté des ordures à la poubelle, comme Nick me demande de le faire vers midi. Qui sont ces types, au fait ?»
Gentry paya le garçon, alla aux toilettes, et appela le service de police responsable du Harbor Tunnel de Baltimore. Le bureau était fermé le dimanche matin, mais le message enregistré mentionnait un numéro à appeler en cas d'urgence. Ce fut une femme à la voix harassée qui décrocha.
« Merde, je devrais pas vous appeler, il me tuerait s'il le savait, » dit Gentry. « Mais Nick, Louis et Delbert ont décidé de commencer la révolution en faisant exploser le Harbor Tunnel. »
La voix de la femme ne semblait plus harassée lorsqu'elle lui demanda son nom. Gentry entendit un bip signalant la mise en marche d'un magnétophone.
« Pas le temps, pas le temps !» dit-il d'une voix excitée. « Delbert, il a trouvé des flingues. Louis a piqué 36 bâtons de dynamite sur le chantier et ils ont planqué tout ça dans le double fond du coffre. Nick, il a dit que la révolution commence aujourd'hui. C'est lui qui a dégoté les faux papiers et tout le reste. »
La femme bafouilla une question, mais Gentry la coupa.
« Faut que je me taille en vitesse. Ils me tueront s'ils apprennent que je les ai balancés. Ils ont pris la tire à Delbert, une Le Baron Verte 76, immatriculée dans le Maryland, DB7269. C'est Delbert qui conduit. C'est lui qui a la moustache et le costume bleu. Oh bon Dieu, ils ont tous un flingue et la tire est prête à sauter. »
Gentry coupa la communication, commanda un café à emporter, paya sa note et regagna la Pinto d'un pas nonchalant. Il n'était qu'à quelques kilomètres du tunnel et nullement pressé d'y arriver. Aussi alla-t-il jusqu'au campus de l'Université du Maryland, fit un tour dans le cimetière de Loudon Park et roula quelque temps sur les quais. Comme la circulation était fluide, la Chrysler gardait ses distances, mais son chauffeur était très fort. Il ne perdait jamais de vue la voiture de Gentry, tout en se faisant remarquer le moins possible. Gentry suivit les panneaux indicateurs jusqu'au Harbor Tunnel, paya son écho à la cabine de péage et regarda dans son rétroviseur dès qu'il fut dans le tunnel illuminé. La Chrysler n'atteignit jamais la cabine de péage. Trois voitures de patrouille, une fourgonnette noire banalisée et un break bleu l'encerclèrent soudain à 50 mètres de l'entrée du tunnel. Quatre autres voitures de police bloquèrent aussitôt la circulation. Gentry aperçut des hommes lever fusils et pistolets au-dessus des capots, vit les trois occupants de la Chrysler agiter les bras par les fenêtres, puis il accéléra pour s'éloigner du tunnel le plus vite possible. Si c'était des agents du FBI qu'il suivait, il se tirerait d'affaire en quelques minutes. Si c'était des Israéliens, et armés de surcroît, que Dieu leur vienne en aide. Gentry prit la première bretelle à la sortie du tunnel, se perdit quelques minutes dans le centre-ville, s'orienta dès qu'il aperçut l'université Johns Hopkins et prit la Highway 1 pour sortir de la ville. La circulation était fluide. Quelques kilomètres plus loin, il aperçut une sortie en direction de Germantown, Maryland, et ne put s'empêcher de sourire. Combien de Germantown y avait-il dans les États-Unis?
Il espérait que Nathalie n'avait pas choisi le bon. Gentry arriva dans la banlieue sud de Philadelphie à 10h30 et à Germantown à 11h. Il n'avait plus revu la Chrysler, et si une autre voiture l'avait prise en filature, son conducteur était trop fort pour se faire repérer. Le Chelten Arms semblait avoir connu des jours meilleurs, mais ne vivrait pas assez longtemps pour saluer leur retour. Gentry gara la Pinto à un demi-pâté de maison de l'hôtel, glissa le rugeur dans la poche de son manteau et se mit en route. Il compta 5 clochards, 3 noirs, 2 blancs, blottis sur les pas de porte. Miss Preston ne répondit pas à l'appel du réceptionniste. Celui-ci était un homme de race blanche de petite taille, tout en nez, dont les 3 mèches survivantes étaient plaquées sur le crâne de l'oreille gauche à l'oreille droite. Il gloussa et secoua la tête lorsque Gentry lui demanda un passe-partout. Gentry lui montra son insigne. Nouveau gloussement de l'employé.
« Charleston ? Mon ami, vous auriez été mieux inspiré d'acheter un autre insigne au magasin de jouets. Un policier de Géorgie n'a aucune autorité ici. »
Gentry opina, soupira, jeta un regard circulaire sur le hall désert et pivota sur lui-même pour saisir la cravate graisseuse de l'employé 10 centimètres au-dessous de son nœud. Il n'exerça qu'une seule traction, mais elle suffit à amener le nez et le menton de l'homme à une 20aine de centimètres du comptoir. « Écoute, mon ami, » dit doucement Gentry, « je travaille en liaison avec le capitaine Thomas Morano, le chef de la section homicide du commissariat de Franklin Street. Cette femme a peut-être des informations susceptibles de nous permettre de procéder à l'arrestation d'un homme qui a assassiné 6 personnes de sang-froid. Bien. Est-ce que j'appelle le capitaine Morano après t'avoir fracassé la tête sur le comptoir, rien que pour me faire plaisir, ou est-ce qu'on opte pour la solution la plus simple ?»
Le réceptionniste tendit une main derrière lui et fit apparaître un passe-partout.
Gentry le relâcha et il rebondit comme un diable sortant de sa boîte, se frictionnant la pomme d'Adam et tâchant de déglutir. Gentry fit 3 pas vers l'ascenseur, pivota, regagna le comptoir en 2 enjambées et agrippa de nouveau la cravate de l'employé au visage cramoisi avant que celui-ci ait eu le temps de réagir. Gentry l'attira contre lui, lui sourit et dit « Autre chose, fiston. Le comté de Charleston se trouve en Caroline du Sud, pas en Géorgie. Ne l'oublie pas. Il y aura une interro écrite plus tard. » Il n'y avait aucun cadavre dans la chambre de Nathalie. Aucune tache de sang, excepté celle laissée par les insectes écrasés près du plafond. Aucune demande de rançon. Sa valise était posée sur le porte-bagages pliant, ouverte, ses vêtements soigneusement pliés, et une paire de chaussures était posée par terre. La robe qu'elle portait à l'aéroport de Charleston 2 jours plus tôt était pendue à un cintre dans un placard. Pas de trousse de toilette dans la salle de bain. La douche était sèche, mais contenait une savonnette récemment utilisée. Son appareil photo était absent. Ou on avait déjà fait le lit, ou personne n'y avait dormi la nuit précédente. À en juger par l'efficacité du personnel de l'hôtel, Gentry opta plutôt pour la seconde hypothèse. Il s'assit au bord du lit et se frictionna le visage. Il n'avait aucune idée de ce qu'il convenait de faire à présent. Le plus judicieux était de se balader dans Germantown en espérant la retrouver par hasard, de revenir à l'hôtel toutes les heures et d'espérer que le réceptionniste ou le directeur n'appellerait pas la police de Philly. Oui, de toute façon, quelques heures de marche dans le froid ne pouvaient pas lui faire de mal. Gentry ôta son manteau et son blouson de sport, s'allongea sur le lit, posa le rugeur près de sa main droite et s'endormit en moins de 2 minutes. Il se réveilla dans une pièce obscure, complètement désorienté, persuadé que quelque chose ne tournait pas rond. Sa montre Rolex, un cadeau de son père, indiquait 4h35. Il y avait une vague lumière grise au dehors, mais la chambre était plongée dans le noir. Gentry alla se laver le visage dans la salle de bain, puis appela la réception. Miss Preston n'était pas rentrée et n'avait laissé aucun message. Gentry alla à pied jusqu'à sa voiture, rangea sa valise dans le coffre et partit se promener. Il descendit Germantown Avenue sur 2 ou 3 pâtés de maison, et passa devant un petit parc fermé. Il aurait voulu s'arrêter quelque part pour boire une bière, mais les bars étaient fermés. Gentry n'avait pas l'impression qu'on était dimanche, mais il n'aurait su dire quel jour de la semaine on était. Il commençait à neiger lorsqu'il récupéra sa valise et regagna l'hôtel. Un autre réceptionniste, plus jeune et plus poli, était de service. Gentry s'inscrivit, paya $32 d'avance, et il était prêt à suivre le groom jusqu'à sa chambre lorsqu'il pensa à s'enquérir de Nathalie. Il avait toujours le passe-partout dans sa poche. Peut-être que Gronet était rentré chez lui sans parler de l'incident à quiconque.
« Oui, monsieur, » dit le jeune réceptionniste. « Miss Preston a pris ses messages il y a environ un quart d'heure. »
Gentry tica. « Est-ce qu'elle est encore là ?»«
Elle est montée quelques minutes dans sa chambre, monsieur, mais je crois l'avoir vue entrer dans la salle à manger. »
Gentry remercia le réceptionniste, donna $3 au groom pour qu'il monte ses bagages dans sa chambre et se dirigea vers l'entrée du petit bar-restaurant. Il sentit son cœur battre plus fort lorsqu'il vit Nathalie assise à une table située à l'autre bout de la salle. Il se dirigea vers elle, puis se figea. Un petit homme aux cheveux noirs, vêtu d'un superbe blouson de cuir, était debout près de sa table en train de lui parler. Nathalie le regardait d'un air étrange. Gentry n'hésita qu'une seconde avant d'aller faire la queue à la table des hors-d'œuvre. Il attendit d'être assis pour regarder en direction de Nathalie. Une serveuse passa près de lui et il lui commanda un café. Il commença à manger posément, sans jamais regarder directement vers la table de Nathalie. Quelque chose ne tournait pas rond. Gentry connaissait Nathalie Preston depuis moins de 15 jours, mais il savait qu'elle était toujours pleine d'entrain. Il commençait tout juste à s'habituer aux nuances d'expression qui faisaient partie intégrante de sa personnalité. À présent, il ne voyait sur son visage ni entrain ni nuance. Nathalie fixait l'homme assis devant elle comme si on l'avait drogué ou lobotomisé. Elle parlait de temps en temps, et en voyant les mouvements saccadés de ses lèvres, Gentry pensa à sa mère durant l'année qui avait suivi son attaque. Il aurait bien voulu distinguer le visage de l'inconnu, apercevoir autre chose que ses cheveux noirs, son blouson et ses mains pâles posées sur la nappe. Lorsqu'il finit par se retourner, Gentry aperçut des yeux indolents, un teint pâle et une bouche pincée. Qui cherchait-il du regard? Gentry ramassa un journal sur une table voisine et passa plusieurs minutes à se mettre dans la peau d'un représentant bedonnant et esselé en train de manger sa salade. Lorsqu'il regarda de nouveau en direction de Nathalie, il acquit la conviction que l'homme assis à sa table était surveillé de près par au moins 2 autres clients. Des flics? Des agents du FBI? Des Israéliens? Gentry acheva sa salade, embrocha une tomate cerise qui lui avait échappé, et se demanda, pour la 1000e fois de la journée, dans quel pétrin Nathalie et lui s'étaient fourrés. Que faire? Hypothèse du pire, l'homme aux yeux de lézard était l'un d'eux, un des monstres mentaux de Saul, et ses intentions à l'égard de Nathalie n'avaient rien d'amical. Les types qui gardaient l'œil sur lui avaient pour rôle de protéger ses arrières. Il y en avait probablement d'autres dans le hall. S'il s'en allait, et si Gentry les suivait, il se ferait aussitôt repérer. Il devait donc les précéder pour leur filer le train. Mais dans quelle direction? Il paya son addition et alla récupérer son manteau au moment où Nathalie et l'inconnu quittaient leur table. Elle regarda Gentry droit dans les yeux à 6 ou 7 mètres de distance, mais il ne distingua pas la moindre lueur d'intelligence dans son regard. Il n'y avait rien dans son regard. Gentry regagna le hall en hâte et s'attarda près de la porte d'entrée pour enfiler son manteau. L'inconnu conduisit Nathalie devant l'ascenseur, faisant halte pour adresser un geste obscène à un homme assis sur un canapé miteux. Gentry tenta sa chance. Nathalie occupait la chambre 212. Gentry avait demandé la chambre 210. L'hôtel n'avait que 2 étages. Si l'homme aux lourdes paupières emmenait Nathalie ailleurs que dans sa chambre, Gentry les perdrait de vue. Il se dirigea d'un pas vif vers l'escalier, monta les marches 4 à 4, reprit son souffle pendant 10 secondes sur le palier du 2e étage, et ouvrit la porte juste à temps pour voir l'inconnu suivre Nathalie dans la chambre de 112. Il attendit 1 minute, au cas où un des autres les aurait suivis. Ne voyant personne, il avança à pas de loup dans le couloir jusqu'à la chambre de Nathalie. Ses doigts se refermèrent sur la crosse du rugeur, puis il se ravisa. Si cet homme avait les mêmes pouvoirs que l'Oberst de Saul, il était capable de l'obliger à retourner son arme contre lui-même. Dans le cas contraire, Gentry ne pensait pas avoir besoin de son revolver.
« Bon Dieu !» pensa-t-il. « Et si je débarque comme un chien dans un jeu de quilles, alors que c'est un vieux copain qu'elle a invité à monter dans sa chambre ?»
Il se rappela l'expression de son visage et glissa silencieusement le passe-partout dans la serrure. Gentry fonça, emplissant de sa masse le mini-vestibule. Vit l'homme assis dans un fauteuil qui se tournait vers lui, ouvrait la bouche. Une demi-seconde lui suffit pour constater que Nathalie était à moitié déshabillée et que son visage était empreint de terreur, puis il leva le bras et l'abattit, cognant le crâne de l'inconnu avec autant de force que s'il avait voulu enfoncer un clou de son poing nu. L'homme avait commencé à se lever, il retomba au fond du fauteuil fatigué, rebondit à 2 reprises, et s'effondra en travers de la coudoir gauche. Gentry s'assura que l'individu était hors d'état de nuire, puis il se tourna vers Nathalie. Son chemisier était déboutonné, son soutien-gorge par terre, mais elle ne fit aucun geste pour se recouvrir. Son corps se mit à trembler comme sous l'effet d'une crise d'épilepsie. Gentry ôta son manteau et le lui passa autour des épaules, alors qu'elle s'effondrait dans ses bras, secouant la tête de droite à gauche en signe de dénégation. Lorsqu'elle tenta de parler, ses dents claquaient si fort que Gentry put à peine la comprendre.
« Oh, Rob, il voulait que je rien pu faire !»
Gentry l'étreignit, la soutint, lui caressa les cheveux. Il se demandait frénétiquement ce qu'ils allaient faire ensuite.
« Oh, mon Dieu, je vais me trouver mal !»
Nathalie se précipita vers la salle de bain. Gentry l'entendit vomir derrière la porte, pendant qu'il se penchait sur l'inconnu toujours inconscient, l'étendait par terre, le fouillait en hâte et récupérait son portefeuille. Anthony Harrod, Beverly Hills. Monsieur Harrod avait 30aine de cartes de crédit, une carte du Club Playboy, une carte de membre de la Writers Guild of America et d'autres documents en papier et en plastique l'identifiant comme un membre de l'industrie hollywoodienne. Il y avait dans sa poche la clé d'une chambre au Chestnut Hills Hotel. Harrod commençait à revenir à lui lorsque Nathalie émergea de la salle de bain, ses vêtements rajustés, son visage encore humide. Anthony Harrod gémit et roula sur lui-même.
« Espèce de salaud !»
éclata Nathalie, et elle lui donna un violent coup de pied dans le bas-ventre. Elle portait de robustes chaussures de marche et frappa avec une énergie qui aurait fait merveille dans une tentative de but des 40 mètres. C'était les testicules de Harrod qu'elle visait. Mais l'homme était en train de rouler sur lui-même et son pied le heurta à la hauteur de la hanche, ce qui accentua sa rotation et l'envoya donner du crâne contre le pied du lit.
« du calme, » dit Gentry,
et il se mit à genoux pour vérifier que l'homme respirait encore. Anthony Harrod, de Beverly Hills, Californie, était encore en vie, mais il était inconscient. Gentry se dirigea vers la porte. Elle n'était munie d'aucune chaîne de sécurité. Il tira le verrou, revint auprès de Nathalie et lui passa un bras autour des épaules.
« Rob !» octa-t-elle. « Il est entré dans mon esprit. Il m'a fait faire des choses, dire des choses. »«
Tout va bien. Nous allons partir d'ici tout de suite. »
Il ramassa ses souliers de rechange, ferma sa valise, l'aida à enfiler son manteau et prit son appareil photo en bandoulière. « Il y a un escalier de secours qui descend jusqu'à la ruelle. Tu te sens assez en forme pour le descendre ?»«
Oui, mais... »
Pourquoi sommes-nous obligés de...
On en reparlera quand on sera loin d'ici. Ma voiture est garée au coin de la rue. Viens.
Il faisait nuit dehors. L'escalier de secours était glissant et fragile, et Gentry s'attendait à voir accourir tout le personnel de l'hôtel lorsqu'il descendit les deux derniers mètres de marche rouillée et grinçante. Personne ne sortit par la porte de service. Il aida Nathalie à descendre les derniers degrés, et ils s'enfoncèrent en hâte dans la ruelle obscure. Gentry sentit une odeur de neige et d'ordure. Ils débouchèrent sur Germantown Avenue, parcoururent une trentaine de mètres et franchirent un coin de rue à 10 mètres de la Pinto de Gentry. Il n'y avait personne en vue. Personne ne surgit d'un pas de porte obscur lorsque Gentry fit démarrer le moteur, passa en prise et s'engagea dans Chelten Avenue.
« Où allons-nous ? » demanda Nathalie.
« Je n'en sais rien. On fout le camp d'ici et ensuite on avisera. »«
D'accord. »
Gentry pénétra dans Germantown Avenue et dut ralentir pour laisser passer un tramway qui allait dans la même direction qu'eux.
« Merde ! » dit-il.
« Qu'y a-t-il ? » ?»«
Ah, rien. J'ai oublié ma valise dans ma chambre d'hôtel, juste à côté de la tienne. »
« Il y avait quelque chose d'important dedans ?»
Gentry pensa à ses slips et à ses pantalons de rechange et gloussa.
« Non.
Et je n'ai aucune envie de faire demi-tour. »
« Rob, que se passe-t-il ? »
Gentry secoua la tête.
« Je pensais que tu pourrais me l'expliquer. »
Nathalie frissonna.
« Je n'ai jamais rien ressenti de semblable. Je ne pouvais rien faire. On aurait dit que mon corps ne m'appartenait plus. »
Nous savons donc qu'ils sont bien réels, dit Gentry.
Nathalie eut un rire un peu forcé.
Rob, la vieille dame, Melanie Fuller, elle est ici. Quelque part dans Germantown, Marvin et les autres l'ont vue. Et elle a tué 2 autres membres de la bande la nuit dernière. J'étais avec...
Un instant,
dit Gentry en dépassant le tramway et un bus de ville portant l'inscription Septa. Devant eux, la rue bordée d'immeubles en briques était déserte.
« Qui est Marvin ?»«
Marvin est le chef de la bande. Saul Brickyard, il... »
Quelque chose heurta violemment l'arrière de la Pinto. Nathalie fit un bond, leva les bras pour ne pas se cogner la tête dans le pare-brise. Gentry jura et regarda derrière lui. L'immense calandre de l'autobus emplissait la lunette arrière de la Pinto et le monstre accélérait pour revenir à la charge.
« Accroche-toi !»
cria Gentry, et il appuya sur le champignon. Le bus fonça sur eux, heurtant le pare-choc de la Pinto une nouvelle fois avant que celle-ci ne s'éloigne. Gentry fit monter le compteur à 80, et la Pinto fonça en trépidant sur la chaussée irrégulière et striée de rails. Les vitres étaient fermées, mais il entendit quand même le rugissement du diesel lorsque l'énorme bus accéléra pour les rattraper.
« Oh merde !» dit Gentry.
Un pâté de maison plus loin, un semi-remorque reculait pour entrer dans un hangar, obstruant le passage. Gentry envisagea de monter sur le trottoir de droite et vit un vieil homme en train de fouiller une poubelle et donna un violent coup de volant à gauche, pénétrant dans une rue étroite après un dérapage contrôlé au cours duquel l'arrière de la Pinto rebondit sur le bord du trottoir. À en juger par le bruit, son pare-choc arrière s'était partiellement détaché lors du premier choc et traînait derrière. Des rangées de maisons identiques défilaient à droite et à gauche. Des voitures neuves et des épaves étaient garées le long du trottoir de droite.
« Il est toujours derrière nous !»
cria Nathalie. Gentry jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit l'autobus rebondir sur le trottoir en négociant son tournant, démolissant au passage 2 panneaux de stationnements interdits et une boîte aux lettres, puis accélérant le long de la rue en pente dans un nuage de gaz d'échappement. Gentry distingua la petite bosse que la première collision avait laissée sur son pare-choc avant.
« C'est pas possible !» dit-il.
En bas de la colline, la rue formait un croisement en T avec une avenue qui longeait un talus ferroviaire enneigé, le côté d'où il venait se réduisant quant à lui à une succession d'entrepôts et de terrains vagues. Gentry tourna à gauche, entendit le pare-choc arrière les lâcher, écouta les toussotements asthmatiques du petit moteur 4 cylindres.
Est-ce qu'ils peuvent nous rattraper ?
Demanda Nathalie alors que l'autobus négociait le tournant en montant sur le talus avant de retomber sur la chaussée. Gentry aperçut le chauffeur vêtu de kaki, agrippé au large volant, et de vagues silhouettes qui s'agitaient derrière lui.
« Non, sauf si on fait une connerie. »
La rue étroite obliquait brusquement sur la droite, devant une usine abandonnée, se prolongeait en pente douce sur une cinquantaine de mètres entre des pâtés de maisons en ruine, et s'achevait par une impasse sur le talus de la voie ferrée. Il n'avait vu aucun panneau indicateur.
« Comme maintenant ?»
dit Nathalie.
« Ouais. »
Gentry freina et la Pinto s'immobilisa sur une étroite bande de terre au bord de la chaussée. Il savait que sa voiture ne parviendrait jamais à grimper les 30 mètres qui les séparaient du sommet du talus. Sur leur gauche se trouvait un bâtiment en briques désaffectées muni d'une grille et un parking boueux séparé de la rue par une chaîne. La Pinto serait peut-être capable de défoncer la grille, pensa Gentry. Mais leur chance de s'en tirer ne serait pas meilleure une fois qu'ils se retrouveraient dans le parking. Sur leur droite s'élevait une rangée de bâtisses vides aux fenêtres condamnées et aux portes couvertes de graffitis. Une étroite ruelle partait de la rue en direction de l'est. Derrière eux, le bus tourna et commença à descendre la pente. Il gronda comme une bête blessée lorsque le chauffeur rétrograda.
« On descend !»
cria Gentry. Il eut le temps d'attraper la valise de Nathalie. Celle-ci récupéra son appareil photo. Ils se précipitèrent vers la ruelle. L'autobus roulait encore à vive allure lorsqu'il emboutit la Pinto sur l'aile arrière gauche. La voiture fit un tour complet sur elle-même, des morceaux de métal volèrent, la lunette arrière explosa, et le bus rebondit sur sa gauche, manquant se renverser lorsque les roues du côté droit mordirent le talus, fracassant la chaîne et s'immobilisant sur le parking boueux. Sa boîte de vitesse gronda. Ses stops laissèrent la place à ses feux de recul, et il passa sur la chaîne à reculons, emboutit la portière avant droite de la Pinto et la poussa jusqu'au bord du trottoir, à 5 ou 6 mètres de l'entrée de la ruelle d'où Gentry et Nathalie observaient la scène. La Pinto heurta une bouche d'incendie et se retourna dans un bruit de métal torturé. Nul geyser ne jaillit de la bouche brisée, mais la puanteur de l'essence emplit l'air nocturne.
« C'est un cauchemar !» dit Nathalie.
Gentry se rendit compte qu'il avait dégainé le rugeur et qu'il le serrait dans sa main droite. Il secoua la tête et le remit dans la poche de son manteau. L'autobus changea de vitesse et se plaça au centre de la chaussée, traînant derrière lui des lambeaux de chrome qui disparurent dans un nuage de gaz d'échappement. Gentry attira Nathalie dans la ruelle, large d'à peine 1,20 m.
« Qui est derrière ça ?»
murmura Nathalie.
« Je ne sais pas. »
Pour la première fois, Gentry acceptait comme un fait, et non plus seulement comme une théorie, que des êtres humains puissent accomplir les actes décrits par Saul et par Nathalie. Quelques années plus tôt, en lisant l'Exorciste, il avait parfaitement compris la joie ressentie par le prêtre agnostique à la vision d'une puissance qui ne pouvait être qualifiée que de démoniaque. L'existence du démon suggérait, à défaut de la prouver, celle de Dieu, dont le prêtre avait fini par douter. Mais que prouvait donc cette incroyable série d'événements? L'existence de la perversité humaine? La perfection d'un pouvoir parapsychologique qui avait toujours été partie intégrante de la condition humaine?
Il s'est arrêté, dit Nathalie.
L'autobus avait reculé jusqu'au talus, puis virait sèchement à gauche de façon à se replacer face à la rue.
« Peut-être que c'est fini, » dit Gentry.
Il passa un bras autour des épaules frissonnantes de la jeune femme.
« Quoi qu'il arrive, cette saleté de bus ne passera jamais par ici. »
Les portières du véhicule étaient situées du côté qui leur était caché, mais ils entendirent le sifflement d'air comprimé signalant leur ouverture. Gentry aperçut les silhouettes des passagers, découpées par le faible éclairage intérieur, en train de se diriger vers l'avant ou vers l'arrière. Que pensait-il donc de cette poursuite insensée? Que faisait le chauffeur à présent? Gentry ne distinguait qu'une ombre penchée sur le volant.
il vit les 7 passagers s'avancer d'un pas hésitant, 3 à l'avant et 4 à l'arrière. Ils marchaient comme des victimes de la polio, comme des marionnettes manipulées par un débutant. De temps en temps, l'un d'eux faisait quelques pas pendant que les autres restaient immobiles, puis c'était au tour d'un deuxième, puis d'un troisième. Le vieil homme qui ouvrait la marche se mit à 4 pattes et trottina vers la ruelle comme un chien reniflant une piste.
« Oh mon Dieu !» souffla Nathalie.
Ils se mirent à courir le long de l'étroite ruelle, enjambant des tas de détritus, se cognant les bras et les épaules contre la brique. Gentry s'aperçut qu'il tenait toujours la valise de Nathalie d'une main, tout en serrant de l'autre celle de la jeune femme. Le bout de la ruelle était obstrué par un grillage rouillé. Gentry entendit un souffle quasi animal derrière eux lorsque le premier de leurs poursuivants entra dans la ruelle. Il lâcha la main de Nathalie, fonça dans le grillage en se protégeant avec la valise et le déchira. Ils émergèrent dans une rue qui s'achevait en impasse sur leur droite, mais à leur gauche elle descendait sous une voie de chemin de fer et continuait vers le nord en direction d'un pâté de maisons éclairées. Gentry tourna à gauche et se mit à courir, mais Nathalie le dépassa avant qu'il ait posé le pied sur le trottoir défoncé. Quelqu'un se fraya un chemin à travers le grillage. Gentry jeta un regard par-dessus son épaule et vit un homme aux cheveux blancs et en costume de ville trotter sur les dalles de béton inclinées comme un Doberman enragé. Gentry dégaina son rugeur sans cesser de courir. Il y avait du verglas sous la voie de chemin de fer. Nathalie s'enfonça dans l'ombre. Gentry vit ses jambes se dérober sous elle et l'entendit heurter la chaussée. Il eut le temps de ralentir, mais il glissa lui aussi et se retrouva sur les genoux.
« Nathalie, ça va ?»
Il se dirigea vers elle à tâtons et l'aida à se relever.
« Je vais laisser ta valise ici, » dit-il.
Nathalie eut un rire rauque.
« Allons-y. »
Ils émergèrent des ténèbres dans une rue étroite bordée de voitures, des épaves pour la plupart. Les bâtiments en ruine alternaient avec les maisons éclairées. Il n'y avait aucun réverbère. Gentry entendit des bruits de pas résonner sous le tunnel de la voie ferrée. Aucun cri ni aucun juron ne s'éleva lorsque le premier poursuivant se cassa la figure. Rien que des bruits de tâtonnement sur la glace et la brique.
« Par ici !» dit Gentry.
Et il poussa Nathalie vers la première maison éclairée, à 100 mètres de là. Il suffoquait et vacillait sur ses jambes lorsqu'ils arrivèrent devant le perron. Il se retourna et monta la garde, tandis que Nathalie tambourinait à la porte et appelait au secours. Une silhouette sombre tira un rideau l'espace d'une seconde, mais personne n'apparut sur le seuil.
« Je vous en prie !» hurla Nathalie. « Nathalie !»
lança Gentry. L'homme au costume déchiré et souillé franchissait les 10 derniers mètres qui les séparaient. Grâce à la lumière issue de la fenêtre, Gentry vit ses yeux exorbités et sa bouche béante, la salive qui coulait sur son menton et le col de sa chemise. Il leva son rugeur et pressa sur la détente assez fort pour relever le percuteur. Puis il le laissa doucement retomber et abaissa son arme.
« Et puis merde !» dit-il,
et il se tassa pour amortir le choc. L'homme percuta l'épaule de Gentry à pleine vitesse et s'envola dans les airs, atterrissant sur le trottoir et sur la plus basse marche du perron. On entendit un bruit écœurant lorsque sa tête rebondit sur la pierre. Comme Gentry se penchait sur lui, le vieil homme se releva, les cheveux en bataille et ensanglantés, le dentier claquetant, et se jeta à sa gorge. Gentry la grippa par les revers de son veston, le fit tourner au-dessus de la chaussée et le lâcha brusquement. L'homme percuta le sol, roula sur lui-même, poussa un grondement inhumain qui ressemblait à un rire, et se releva aussitôt, repartant à l'attaque. Gentry l'assomma avec le canon de son rugeur. Il tomba face contre terre, agité de spasmes. Gentry s'assit sur la plus basse marche, la tête entre les genoux. Nathalie attaqua la porte à coups de pied et à coups de poing.
« Je vous en prie, laissez-nous entrer !»«
Je suis officier de police !»
hurla Gentry avec ce qui lui restait de souffle.
« Laissez-nous entrer !»
La porte resta fermée. De nouveaux bruits de pas se firent entendre dans le tunnel.
« Mon Dieu !» Octa Gentry. « Je croyais... »
Saul nous avait dit que l'Orburs ne pouvait contrôler qu'une personne à la fois.
La silhouette d'une femme de haute taille émergea des ombres sous le pont. Elle avait ôté ses chaussures pour mieux courir et tenait un objet pointu dans sa main droite.
« Viens !» dit Gentry.
Ils avaient parcouru une dizaine de mètres lorsqu'ils entendirent le grondement du bus dans la courbe que dessinait la rue. La lueur de ses phares éclaira les maisons de briques sur leur gauche. Gentry chercha du regard une ruelle, un terrain vague, n'importe quoi, mais ne vit qu'une série de façades en briques sur les 30 et quelques mètres qui les séparaient du tunnel.
« Par ici !»
cria-t-il.
« En haut du talus !»
Il fit demi-tour au moment précis où la femme blonde, ayant achevé sa course en silence, entrait en collision avec lui. Tous deux tombèrent et roulèrent sur la chaussée humide, Gentry lâchant le rugeur pour tenter d'écarter les dents de la femme de sa gorge et essayer de lui agripper le cou. La femme était très forte. Elle dégagea sa tête et le mordit cruellement à la main gauche. Il serra le poing, visa sa mâchoire, mais elle baissa la tête à temps pour qu'il n'atteigne que son crâne. Il la repoussa, se demandant comment il pourrait l'assommer sans lui infliger des dommages irréparables, au moment même où la main droite de la femme se faufilait sous son bras. Il sentit un choc glacé et ne put rien faire lorsque les ciseaux s'abattirent une seconde fois. Elle se recula pour le frapper une troisième fois et il lui décocha un crochet qui l'aurait décapité s'il avait atteint son but. La femme blonde fit deux pas en arrière et leva les ciseaux à hauteur de ses yeux juste au moment où Nathalie lui assénait un coup d'appareil photo sur l'occiput. La femme s'effondra mollement sur la chaussée alors que Gentry réussissait péniblement à se redresser. Son flanc et sa main gauche étaient en feu. Un rugissement s'éleva et les phares de l'autobus les clouèrent dans leur éclat. Gentry chercha le rugeur à tâtons, sachant qu'il était quelque part sur le sol. Le bus était à une quinzaine de mètres d'eux et descendait la pente en accélérant. C'était Nathalie qui avait le revolver. Elle laissa tomber son appareil photo, écarta les jambes, et tenant la crosse à deux mains, tira à 4 reprises, comme Gentry le lui avait appris.
« Non !»
hurla Gentry alors que la première balle fracassait un phare. La deuxième découpa une étoile dans le pare-brise, à gauche du siège du chauffeur. Les deux autres se perdirent en l'air à cause du recul. Gentry saisit l'appareil photo et tira Nathalie vers le perron de la maison la plus proche alors que le bus fonçait droit sur eux. Il emboutit le perron dans une nuée d'étincelles, ses roues de droite écrasant la femme blonde sans même faire frémir son châssis. Nathalie et Gentry se redressèrent tandis que le bus dérapait sur le verglas, pivotait de 90 degrés et glissait en direction du tunnel. On entendit un hurlement de métal et de bois.
« Vite !»
Octa Gentry, et ils coururent vers le talus. Gentry était à moitié plié en deux, serrant son bras gauche contre son flanc. Un grondement de moteur diesel, un grincement de boîte de vitesse, et la lueur borgne d'un phare balaya les murs du tunnel, alors que les roues arrière du bus patinaient, trouvaient une prise, patinaient de nouveau. Une poutre céda dans un grincement tonitruant, et le bus émergea du passage, au moment où Gentry et Nathalie atteignaient le talus et commençaient à gravir son flanc gelé. Un morceau de barbelé s'entortilla autour de la cheville de Gentry et lui fit perdre l'équilibre. L'espace d'une seconde, il se retrouva épinglé par la lueur du phare et découvrit son manteau en lambeaux, le sang qui coulait le long de son bras jusqu'à sa main mâchée. Il regarda par-dessus son épaule, au moment où Nathalie le saisissait par le bras droit pour l'aider à se relever.
« Passe-moi le rugeur !» dit-il.
Le bus reculait le long de la rue, prenant son élan.
« Le revolver !»
Nathalie lui tendit l'arme, alors que le chauffeur passait en première. Les deux corps gisant sur la chaussée semblaient totalement aplatis.
« Fonce !»
ordonna Gentry. Nathalie se retourna et commença à grimper en s'aidant de ses mains. Gentry la suivit. Ils étaient à mi-hauteur du talus lorsqu'ils tombèrent sur la clôture. Le bus prit de la vitesse. L'écho de ses grondements résonna sur les murs de briques. Son phare pointa vers le haut et vint éclairer Gentry et Nathalie. La clôture, invisible depuis la chaussée, était tellement affaissée qu'elle ressemblait à un tapis de grillage en accordéon. Nathalie s'était accrochée à un bout de fil de fer. Gentry dégagea la jambe de son pantalon, entendit le tissu se déchirer et la poussa vers le sommet. Elle fit quatre pas et s'accrocha de nouveau. Gentry se retourna, se campa solidement sur le flanc du talus et leva le rugeur. La longueur du bus était presque égale à la hauteur du talus. Le manteau de Gentry le gênait. Il l'ôta, fit pivoter son torse de 90 degrés, leva le rugeur avec l'impression qu'il pesait une tonne. Le bus écrasa à nouveau les corps, changea de vitesse, rebondit assez haut sur le trottoir invisible pour éviter de s'enfoncer dans la base du talus et commença à grimper. Gentry baissa légèrement son arme pour compenser la tendance que l'on avait à tirer trop haut dans une telle circonstance. La lumière reflétée par la neige éclaira le chauffeur. C'était une femme vêtue d'un uniforme kaki, aux yeux immenses. Il ne la laissera pas vivre de toute façon, pensa Gentry, et il tira ses deux dernières balles. Deux étoiles apparurent devant le chauffeur. Le pare-brise parut se givrer et se pulvériser. Gentry fit volte-face et se mit à courir. Il était à 3 mètres de Nathalie lorsque le bus le rattrapa, le projetant en l'air comme une poupée jetée par un enfant capricieux. Il se reçut sur le flanc gauche, sentit Nathalie tout près de lui, prit appui sur un rail glacé et ouvrit les yeux. Le bus arriva à moins de 2 mètres du sommet du talus, perdit son adhérence et chassa de l'avant, son phare balayant la nuit comme un projecteur pris de démence. Son pare-choc arrière heurta la chaussée avec un bruit sourd, définitif, et le long véhicule essaya de se tenir debout sur ses roues arrière, l'avant complètement décollé de la pente, avant de basculer sur la droite. Allait-il se retrouver sur le toit? Non, il retomba sur le côté, ses roues continuant de tourner.
« Ne bouge pas !»
murmura Nathalie, mais Gentry s'efforçait déjà de se relever. Il baissa les yeux, et faillit éclater de rire en voyant le rugeur toujours vissé à sa main glacée. Il voulut le mettre dans la poche de son manteau, s'aperçut qu'il ne portait plus ni manteau ni blouson, et le fourra dans son ceinturon. Nathalie l'empêcha de s'effondrer.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda-t-elle à voix basse.
Gentry essaya de s'éclaircir les idées. « On attend les flics, les pompiers, une ambulance. » Il savait que ce n'était pas la bonne réponse, mais il était trop épuisé pour trouver mieux. Des lumières s'étaient allumées un peu partout dans la rue, mais personne n'était sorti des maisons. Gentry resta un long moment appuyé contre Nathalie. Il se mit à neiger. Aucune ambulance n'arrivait. Un bruit sourd s'éleva en contrebas, et une vitre du bus se détacha de son châssis et tomba à terre. 3 ou 4 formes sombres émergèrent du véhicule, rampant sur sa carcasse métallique comme d'énormes araignées noires. Sans dire un mot, Gentry et Nathalie firent demi-tour et clopinèrent le long du ballast. À un moment donné, il tomba sur la voie ferrée et perçut une vibration régulière. Nathalie le releva et le força à courir. Des bruits de pas lointains se firent entendre sur le mâche-fer derrière eux.
« Là !» hoqueta soudain Nathalie. « Là, je sais où on est !»
Gentry ouvrit les yeux et découvrit un bâtiment de 2 étages flanqué de terrain vague. La lumière brillait à 12 de fenêtres. Il trébucha et dégringola en bas du talus. Un objet pointu lui lacéra la jambe droite. Il se releva à grand-peine et aida Nathalie à se redresser au moment où un train de banlieue passait au-dessus d'eux dans un grondement. Il y avait des gens sous la galerie. Des voix aux accents typiques du parler noir leur lancèrent des sommations. Gentry vit 2 adolescents armés de fusils de chasse. Il chercha à saisir son rugeur, mais ses doigts refusèrent de se refermer sur la crosse. Il entendit la voix de Nathalie, lointaine, pressante, insistante. Gentry décida de fermer les yeux pendant une seconde ou deux, le temps de retrouver ses forces. Des bras robustes se refermèrent sur lui lorsqu'il s'effondra.